Alors, de l'étude des codes et systèmes de référence aux jeunes ados roumaines victimes de l'esclavage sexuel, les 19 démarches photographiques inscrites dans cette exposition Teen City, l'aventure adolescente au musée de l'Élysée, s'essayent toutes à cristalliser, si cela faire se peut, en tout cas ce temps incertain, voire douloureux, ce temps de métamorphose de l'adolescence. Nathalie Hirschendorfer, vous êtes la commissaire de cette exposition. Vous avez fait des choix très inattendus parfois entre photographie plasticienne, documentaire et théâtralité par rapport au réel. Et il est vrai que cette exposition appelle aussi à prendre à contre-pied un certain nombre d'idées reçues sur l'adolescence, même générique, même mondialisée, même globalisée. Alors, l'adolescence est un temps marqué par de multiples métamorphoses, parfois vécues de manière violente, qui affectent notamment le corps, mais aussi le psychisme. Qu'est-ce qui caractérise pour vous cette exposition Teen City, qui ne rime pas nécessairement avec Sin City, la cité des péchés? Et je crois que l'idée de départ, c'était vraiment pas de faire un portrait générique des adolescences, Nathalie Schoendorfer.
Oui, absolument. Nous avons souhaité traiter de ce sujet dans la photographie contemporaine. Notre point de départ, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'exposition, elle a deux volets. Elle a un volet qui présente des travaux d'artistes contemporains, qui présentent des images actuelles. Et l'autre volet, ce sont des images prises par les adolescents eux-mêmes. Nous n'avons pas souhaité avoir un regard historique sur le genre de l'adolescence comme genre dans la photographie, parce que on parle aujourd'hui véritablement d'un genre, mais nous avons souhaité montrer les différentes propositions des photographes. Alors, l'adolescence, c'est un thème fascinant pour les photographes parce que s'intéresser à cette classe d'âge permet de s'intéresser non seulement aux questions qui touchent la sexualité, aux questions qui touchent l'identité, la transformation du corps, la transformation du visage, la référence à des codes, la référence au groupe, cette recherche d'authenticité ou alors de conformisme par rapport au groupe. Toujours ces questions qui sont liées à une attitude de rébellion, de révolte qui caractérise les jeunes. Et les photographes, en fait, arrivent chacun avec une proposition. Le sujet est tellement vaste que nous avons souhaité montrer cette diversité dans l'exposition aussi et de ne pas montrer une voie unique de comment percevoir l'adolescence aujourd'hui. Ce n'est pas du tout notre propos. Notre propos, c'est de montrer des travaux photographiques intéressants qui présentent chacun un point de vue particulier qui est celui de l'artiste.
Alors, pour commencer par cette enquête photographique, qu'est-ce que vous en avez retenu?
Le travail de Nicolas Savary, je dois dire qu'il était le point de départ du projet Teen City. Nous avions découvert son travail en 2006, lors de la parution de son catalogue, pour l'enquête photographique fribourgeoise. Ce sujet nous avait frappé à l'époque, et c'est vrai que Nicolas Savary nous a expliqué que c'est lui-même qui avait choisi de s'intéresser aux écoles. Ce n'était pas une demande du canton de Fribourg, mais c'était vraiment son choix. Et son propos, il est très très fort, c'est-à-dire que à ses yeux, l'architecture scolaire est une architecture d'emprisonnement. C'est pas un lieu d'épanouissement. Et les adolescents qui traversent ces espaces-là et qui passent une longue période de leur vie dans les cadres, dans les murs de l'école, en fait, n'ont aucune emprise sur cette architecture-là et ne peuvent pas laisser une marque de leur passage. Alors, Nicolas Savary a travaillé effectivement longtemps sur cette étude. Il a analysé ces bâtiments scolaires. Il parle même de prison. Il explique que les bâtiments scolaires étaient construit sur des plans qui étaient celui d'une prison, c'est-à-dire que les couloirs dans l'école permettent d'avoir une visibilité de tout ce qui s'y passe au moment où les élèves traversent les couloirs pour se rendre dans les salles de classe ou pour sortir du bâtiment. Lorsqu'on regarde ces photographies, puisque ces photographies sont à la fois, comme vous le dites, des portraits et également l'autre volet, ce sont des vues d'architecture de ces écoles, ces vues d'architecture où il n'y a jamais un seul individu qui les traverse. Nicolas Savary explique que ça a été pris pendant pendant des journées. Simplement, ces couloirs sont occupés très peu de temps dans la journée, c'est-à-dire que c'est au moment des changements d'horaire et au moment où les élèves doivent quitter l'établissement, et sinon le reste du temps, ces couloirs demeurent vides et propres. Ce côté clinique l'a frappé, ce côté froid, et aujourd'hui, il parle même d'établissements qui ne sont plus construits sur le modèle de prison, mais d'établissements qui sont construits sur le mode d'une clinique psychiatrique. Et on a effectivement dans ces photographies cet aspect froid, très propre, les salles de gym qui brillent de propreté, mais qui en même temps accueillent des centaines et des centaines d'élèves chaque semaine. Et son interrogation, c'est comment un adolescent qui vit beaucoup d'heures dans le cadre de l'école peut s'épanouir, peut y trouver son rêve ou comment vivre quelque chose d'épanouissant dans ce cadre-là. Et effectivement, quand on voit ces photographies, moi-même, j'avais des souvenirs de mes années à l'école. J'ai l'impression d'avoir reconnu ma scolarité lorsque j'étais adolescente, alors que je ne connais pas ces établissements-là et ce n'était pas dans le canton de Fribourg. Mais il y a quelque chose de très fort dans son travail. En même temps, ces portraits d'adolescents qu'il a fait poser, hein, on n'est pas dans le photoreportage du tout, on est dans une démarche de mise en scène. Nicolas Savary s'en défend, pour lui c'était important, mais en même temps dans ses portraits d'adolescents qui ont un visage fermé, il a aussi voulu montrer que ce sont des êtres qui bouillonnent à l'intérieur et qui ont envie d'exprimer quelque chose, mais qui sont dans un lieu où c'est pas possible de l'exprimer. Et cette confrontation entre ces vues d'architecture vides, ces vues cliniques et ces portraits de jeunes où on sent le malaise dans leur corps, effectivement, donne une image très forte de ce que pourraient ressentir effectivement les adolescents dans l'univers scolaire. Et on se rend compte dans l'exposition, on voit que l'univers scolaire est très présent et on a un autre travail fait contrepoint à Nicolas Savary, c'est celui de Raymond Wouda, qui est un photographe néerlandais. C'est un travail que nous avons découvert à Arles l'été dernier. Et lorsque nous avons découvert le travail de Raymond Wouda, nous avons décidé de lancer ce projet Teen City, puisque nous connaissions déjà celui de Nicolas Savary. En disant chez Raymond Wouda, nous avons vraiment l'opposé, c'est-à-dire l'univers scolaire est également montré, les couloirs sont également montrés, mais au contraire sont habités par les élèves. Et Raymond Wouda a travaillé au moment où les élèves justement traversent ces couloirs, occupent les cantines, attendent l'entrée en classe ou au contraire occupe le collège pour organiser une soirée, une boum, et où on voit toute l'agitation, on voit toutes les relations entre les élèves, entre les adolescents eux-mêmes, au sein de l'école.
Alors cette question de l'adaptabilité au milieu, vous parliez donc justement de cette démarche voyage de Gulliver, jeu sur les échelles, qui est extrêmement théâtralisé, c'est-à-dire qu'il y a un soin extrêmement fort qui est amené notamment dans le choix des lumières. En même temps, c'est vrai que quand on a cette jeune fille qui vient chercher, comme il y a beaucoup en Angleterre, puisque cette photographe qui est originaire de Brême réside actuellement à Londres, ces bouteilles de lait qu'on a le matin, et puis en fait elle est dans une maquette assez géante avec ses tongs, ce qui crée à la fois un rapport en disant qui met en danger le plus le milieu, le sujet. Enfin, il y a tout un dialogue. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez cette photographe, d'ailleurs, dont le sujet, l'adolescente, est quelque chose qui traverse véritablement son œuvre, qui n'est pas spécifique de ce qui est présenté ici?
Alors, dans la deuxième série que nous présentons, nous voyons ces géantes, ces adolescentes qui parcourent cet univers urbain qui est minuscule, donc comme s'il s'agissait d'une petite maquette. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est cette idée, comment représenter ce corps adolescent qui grandit, ce corps qu'on a de la peine à habiter et dans lequel on doit vivre et auquel on cherche à l'adapter. Donc d'une part, on doit s'adapter à son corps, mais on peut aussi adapter son corps à sa propre volonté. On est vraiment aujourd'hui dans une société qui joue sur les deux niveaux. Auparavant, le corps qu'on avait à la naissance et le visage qu'on avait à la naissance, c'était celui qu'on allait garder jusqu'à la fin de nos jours. Et il n'était pas question de le modifier. L'adolescence est un moment important où véritablement on doit vivre avec ce corps, on n'a pas le choix, et en même temps on a peut-être des moyens aussi de le changer soi-même, de le transformer. Et Julia Fullerton-Batten touche exactement ce moment-là dans la vie d'une adolescente où on a l'impression d'être soudain toute puissante, on se sent grandir. Et finalement, on se sent tellement grandi que est-ce qu'on peut encore s'adapter au monde qui est autour de nous ? Et l'adolescente qui vit d'une part entre un monde imaginaire, Julia Fullerton-Batten explique à quel point on est encore dans un monde rêvé, on a beaucoup de rêves, on pense à son avenir, on sait qu'on n'est pas, on ne doit pas être responsable encore à ce moment-là, on peut laisser les choses ouvertes le plus longtemps possible, et en même temps on veut intervenir sur cet univers qui est autour de nous, mais est-ce qu'on appartient à cet univers ? Et le fait de montrer ces adolescentes très grandes qui n'arrivent pas vraiment à pénétrer dans cet environnement, puisqu'elles sont trop grandes, c'est vraiment l'histoire d'Alice, hein, qui grandit trop et finalement qui ne peut plus entrer dans la maison parce qu'elle a beaucoup trop grandi. Donc comment l'adolescent va pouvoir s'adapter à cet univers qui est autour de lui, dans lequel il doit vivre, et tout en voulant à la fois s'y intégrer ou non. C'est-à-dire que on voit effectivement chez Julia Fullerton-Batten, mais dans d'autres travaux dans l'exposition, c'est que parfois c'est une volonté véritablement de ne pas entrer dans cet univers qui est celui des adultes. Il faut répéter que l'exposition présente des travaux d'artistes qui sont tous des adultes. Donc c'est chaque fois la vision d'adulte sur l'adolescence. Et dans ce cas précis, dans Julia Fullerton-Batten, c'est aussi une référence à sa propre adolescence. Et on a beaucoup d'artistes dans l'exposition qui, avec une certaine nostalgie, revoient leur propre adolescence et certains sentiments qu'ils ont traversés.
Alors parlons peut-être d'une démarche française qui touche à une scène jeunesse par excellence, en tout cas un lieu privilégié de l'expression adolescente, en Cadreille, qui est la colonie de vacances. Ce lieu justement de vacances, où on est entre neutralité, théâtralité, et d'autres, que dire justement de cette démarche de cette photographe française qui d'ailleurs a beaucoup projeté dans ses adolescentes l'adolescente qu'elle fut elle-même?
Alors Marion Poussier travaille sur les colonies de vacances, qui est ce moment dans la vie d'une adolescente, parce que ici elle parle en particulier des adolescentes, mais un temps suspendu. C'est-à-dire qu'on se retrouve envoyé dans à nouveau un territoire qui est pour les adolescents, comme l'école est un territoire destiné aux adolescents. Le camp de vacances s'en est un aussi, donc l'adulte est là pour cadrer. C'est de nouveau l'adulte qui a le rôle de amener quand même une sorte de calme à ce moment qui est un moment qui est consacré aux adolescents et dans lequel ils doivent vivre leurs propres sentiments, et vraiment c'est un endroit qui est créé pour eux. Un temps suspendu, puisque il est resté une semaine, trois semaines, ça n'a pas tellement d'importance. L'adolescent qui pénètre le premier jour dans cet univers ne connaît sans doute personne, donc il doit créer très vite des liens avec les autres jeunes qui s'y trouvent. Et Marion Poussier a su montrer ça dans ce travail qui s'appelle « Un été », où on voit à la fois ces moments de grande solitude où l'adolescent volontairement se détache du groupe et refuse d'être intégré au groupe, ou alors les moments où il y a des trop fortes relations, des très fortes émotions entre ces adolescents qui viennent de se rencontrer et qui créent des liens très forts d'amitié en quelques jours, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir, c'est une question de survie aussi, dans cet univers-là. Et on voit tout ça dans son travail, ce tiraillement, d'une part l'isolement, et d'autre part, le fait d'avoir cette émotion à fleur de peau et par rapport aux amis qu'on a rencontrés, qu'on va devoir quitter et pour retourner dans notre vie et qu'on ne va peut-être plus jamais revoir.
Une photographie parle à la fois parce qu'elle enregistre, parce qu'elle inscrit dans un cadre, que parce qu'elle manque. Alors qu'est-ce qu'enregistre ce travail poignant et à la fois très intrigant de cette Roumaine, et qu'est-ce qu'elle manque aussi? Parce que ça, c'est une vision a posteriori également de personnes qui sont de retour quelque part de ce champ de bataille qui a été leur corps.
C'est vrai que dans cette exposition, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avions pas souhaité montrer du photoreportage. Donc, dans un cas comme le cas de cette photographe, Dana Popa, qui est une photographe roumaine, elle a choisi de travailler sur ces jeunes moldaves qui ont été victimes de trafic sexuel. Alors là, il y avait deux possibilités pour elle. Soit c'est d'aller sur place et de les montrer dans la rue, au travail, parce qu'elles étaient prostituées, ou de les montrer enfermées. Enfin, de trouver une manière de les montrer au moment où elles ont vécu cette histoire tragique, ou alors d'aller les voir à leur retour chez elles, au moment où elles ont réussi enfin à réintégrer leur famille, après des années de souffrance, le moment où elles rentrent désabusées. Ce sont des jeunes filles qui ont entre 18 et 22 ans, qui ont quitté leur pays, leur famille, lorsqu'elles étaient adolescentes, d'une manière naïve, pensant trouver une vie meilleure en répondant à une petite annonce, et qui se sont retrouvées dans ce trafic sexuel. Nous avons souhaité présenter ce travail parce qu'effectivement, l'adolescence, comme vous l'avez dit vous-même, c'est aussi beaucoup de souffrance, c'est des problèmes qui sont liés à la santé, fragilité psychologique, fragilité corporelle, si on parle d'anorexie, de problèmes liés à l'anorexie. C'est pas quelque chose qu'on évoque d'une manière directe dans l'exposition parce qu'on n'a pas souhaité, comme des sociologues par exemple, présenter ces différents cas de figure. Mais le travail de Dana Popa nous présente une réalité qui existe aujourd'hui, qui est cette réalité très dure de jeunes gens qui, dans l'espoir de trouver une vie meilleure, se retrouvent pris dans une histoire terrible de traite et qui vivent au niveau de leur corps quelque chose de tragique. Ce sont des adolescentes qui se retrouvent violées, vendues, devoir travailler pour la prostitution, droguées aussi. Donc l'histoire est terrible. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce trafic des blanches. Mais Dana Popa nous présente uniquement des jeunes filles qui sont dans leur maison, de retour dans leur famille, qui sont soit assises dans leur chambre, qui sont couchées dans l'herbe, qui sont assises dans leur cuisine. On voit par l'univers qu'elle présente un univers de pauvreté. Ça se trouve en Moldavie, donc la Moldavie qui est un endroit très très pauvre. Mais en même temps, l'image ne montre rien de ce qu'elles ont vécu dans leur corps, de ce qu'elles ont vécu psychologiquement, de toute cette souffrance qu'elles ont traversée. Néanmoins, à nous, spectateurs, de reconstituer tout ça, la photographe accompagne les images de quelques lignes qui donnent le prénom de la jeune femme, son âge et simplement quelques mots qui disent « Oui, ma mère m'a vendue ». J'ai pu fuir après avoir passé peut-être 2 ans, souvent elles ne savent pas exactement combien de temps se sont écoulés, après avoir passé 2 ans à l'étranger, enfermée, prostituée. Il y a très peu de mots qui sont accompagnés, mais toute la souffrance ressort à la fois de ces images où on voit ces jeunes filles qui ont effectivement un corps qui est refermé sur elles-mêmes, et à nous, spectateurs, de recréer cette histoire qui est dramatique. L'exposition, je reviens encore une fois, c'est une exposition de photographie, et ce qui nous intéressait, c'était de voir comment on se construit par rapport à l'image et par rapport aux codes qui sont donc donnés par des images, surtout. Et on a souhaité aborder ce sujet-là en présentant ces travaux-là qui amènent la sexualité d'une manière détournée. On a, encore une fois, on présente 19 photographes. C'est un sujet très vaste aujourd'hui et nous n'avons pas fait de catalogue dans l'exposition parce que nous réalisons que ce n'est pas un sujet qu'on peut boucler comme ça. L'adolescence, on ne va pas réussir à tout dire dans une exposition. Le musée de l'Élysée a l'habitude de travailler de cette manière-là, c'est-à-dire que pour nous, une exposition, c'est une sorte de laboratoire. On lance un sujet, on en parle autour de nous, on en parle aux artistes, aux galeries, aux musées, à nos collègues commissaires d'exposition, Et nous créons cette exposition qui est pour nous une sorte de laboratoire. Et je dois vous dire que depuis que l'exposition a ouvert le 14 juin, nous sommes au mois de juillet, j'ai eu plusieurs travaux depuis que j'ai reçu d'autres artistes ou de galeries. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on là, on réalise que là, il y a vraiment une matière qu'on peut enrichir. Et nous voulons garder cette porte ouverte au maximum. Alors évidemment, au moment où l'exposition est accrochée sur les murs, elle va rester plus ou moins de cette identique jusqu'à la fin de l'exposition. Mais pour nous, c'est un début de recherche véritablement sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui existent aussi sur l'imagerie Internet, et vous parliez de cette image qui est très présente au niveau de la sexualité, qui est échangée par les jeunes par téléphone ou par blog. Il y a des travaux d'artistes sur ce sujet-là, effectivement, qui sont très intéressants, où on voit à quel point les jeunes se construisent aussi une identité à travers ces images qui sont échangées sur Internet et qui sont souvent issues de sites pornographiques.